Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
C'est l'épisode numéro 430 du Rendez-vous Tech. On est en novembre 2021. On va vous parler de NFT, on va parler d'attaques de drones, de Airbnb dans le monde d'après, de Tesla qui a toujours raison, surtout, ou presque. Et on a, je crois, un épisode quasiment sans GAFAM, une première mondiale. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à avoir un épisode sans GAFAM ? Je ne sais pas si ça sera possible. Bon, il y en aura quand même un petit peu qui réussiront à s'insinuer dans l'émission. Je suis Patrick Béja et c'est le Rendez-vous Tech où on vous parle technologie, internet et gadgets. On vous fait un résumé toutes les semaines de toute l'actu importante à retenir dans la bonne humeur, j'espère. Et pour m'accompagner dans la meilleure des humeurs, c'est Cédric Ingrand.
Évidemment.
Comment vas-tu, Cédric, mon ami ?
Ben, je suis de la meilleure des humeurs. Voilà. Je sais pas.
Formidable. Est-ce que je t'ai intimé d'être de bonne humeur en faisant cette introduction ou tu l'étais déjà avant?
Non, c'est, je pense qu'il y a du naturel quand même derrière ça, mais c'est toujours un plaisir. Tu es mon rayon de soleil du deuxième mardi du mois.
Oh, merci. Je suis très heureux que tu le caractérises de cette manière. Je suis également très heureux d'avoir mes rayons de soleil, mes patriotes à moi, les gens qui, comme Laurent, Michael Priam, JDL, Ephraim Clam, Manu, Sébastien M, Mébarek, Thierry, Roromag et Simon, contribuent à l'émission au Rendez-vous Tech et sont ceux qui permettent à l'émission d'exister puisqu'ils donnent de leurs sous, un petit peu, hein, 1 euro, 2 euros, pour que l'émission se fasse et ils sont mon rayon de soleil et mon bol de pâtes en même temps puisqu'ils me permettent de manger et de payer mes factures. Un petit mot spécial, rayon de soleil et bol de pâtes, je ne sais pas si ça va ensemble. Un petit mot spécial quand même pour remercier les producteurs éternels de cette émission, Raph et Stéphane Nioret aujourd'hui. Ils ont trouvé le niveau secret sur Patreon et je les en félicite parce que ce n'est pas facile et ils sont donc producteurs de cet épisode. À propos de Patriot, l'after show aujourd'hui, je pense que je vais inaugurer une nouvelle formule qui s'appelle Patrick and Chill. L'after show, c'est la partie de l'émission.
Ça me fait marrer. Pardon, je ne l'ai pas vu venir.
Non, l'after show, c'est la partie de l'émission après qui est réservée aux Patriotes, qu'on fait après l'émission principale. Et généralement, on a un sujet, un thème. Là, on va voir des sujets qui n'ont pas été traités, que je n'ai pas sélectionnés pour l'émission principale, avec les gens de la communauté s'ils souhaitent participer. On va ouvrir la participation à tous ceux qui sont au niveau 2, qui ont accès au Discord privé. Mais ça, donc, j'inaugure le format Patrick and Chill. Je pense que ça risque d'être sympathique. Ça va être détendu entre nous, comme ça, ça va être sympathique.
Et ce que ça va devenir.
Ce que ça va devenir, comment ?
Ça a de l'avenir.
Ça a de l'avenir, ouais, tout à fait. Patrick and Chill. On a aussi un petit truc que je voudrais évoquer avant de nous lancer dans nos histoires de NFT, parce qu'il se passe des trucs au niveau des cryptos, des NFT, tout ça. Je voudrais reparler un petit peu de Meta, ou plutôt de Metaverse, dont on a beaucoup, beaucoup parlé la semaine dernière. Et j'ai entendu ensuite des analyses et des personnes parler du Metaverse, et j'ai trouvé que les gens avaient très mal compris ce qu'était le potentiel du métavers tel qu'il avait été évoqué par Mark Zuckerberg. Alors vous vous souvenez, hein, la semaine dernière, Mark Zuckerberg a fait une grande présentation sur l'avenir de Meta, la société qui était anciennement Facebook, et l'importance de cet univers en 3D, de cette évolution du web en réalité virtuelle, réalité augmentée. Et beaucoup de gens, en parlant de ça, on dit des choses comme « Oh, mais le métavers existe déjà, on a déjà eu Second Life, il y a des trucs qui se passent du côté de, je sais pas moi, Roblox, de l'Oculus, c'est déjà là et c'est du marketing, machin. » Et j'ai été assez effaré du manque de compréhension des gens de ce que veut être au final la forme ultime du métavers de Zuckerberg. Parce que peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais ce qu'il imagine, ce n'est pas juste des environnements en 3D que vous pouvez voir quand vous avez vos casques de réalité virtuelle. C'est un mélange sans distinction entre la réalité et le virtuel, en fait. Grâce aux lunettes de réalité augmentée ou même de réalité virtuelle, on pourra voir une personne qui n'est pas là, comme si elle était là, pas genre uniquement un avatar ou dans un jeu vidéo, mais vraiment une personne, une représentation photoréaliste de la personne, comme si elle était là. Et ce mélange entre le réel et le virtuel est l'ambition ultime du métavers, et ça offre des possibilités qui sont inimaginable dans l'état des technologies actuelles. Et d'ailleurs, c'est irréalisable dans l'état des technologies actuelles. C'est pour ça qu'on parle d'un horizon à 5-10 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés à l'horizon 1 ou 2 ans et qui n'ont pas même réussi à imaginer ce que ça pourrait être si ça réussit. Encore une fois, il y a de fortes chances que ça se plante, hein, mais, et que ça ne soit pas possible. Il y a plein de problèmes possibles. Mais la manière dont les gens en parlent, j'ai l'impression qu'ils se laissent complètement influencer par leur billet anti-Facebook, que je comprends tout à fait et que j'ai sans doute en partie moi aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est un biais, mais en tout cas, clairement, Facebook n'est pas dans les grâces du public ces dernières années. Et donc, qu'ils, comment on dit en français, dismiss, ils balayent d'un revers de la main la vision de Zuckerberg. Mmh. Et pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce que, qu'il ait raison ou pas, la vision est intéressante et surtout, elle n'est pas ce que certains disent qu'elle est en disant ben, « on l'a déjà, ça existe déjà, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune importance ». Donc, je voulais le mentionner. Je ne sais pas si toi, tu es aussi…
Ah là là.
Tu as un programme dans ce…
Non, mais je ne sais même pas par où prendre le problème. Où est passé le Zuckerberg qui, c'était quoi, il y a un an, 18 mois, nous disait, et là, je trouvais ça totalement rationnel. Souviens-toi… On va rassembler nos apps en une seule et pour devenir le truc avec lequel vous allez tout faire. Enfin, en gros, un truc à la WeChat. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il soit à la fois ton réseau social.
Tu sais, Cédric, on est vraiment fait pour s'entendre. C'est exactement ce que je disais dans l'épisode précédent.
Avec le temps, ça se confirme.
Et oui, clairement. Et j'ai entendu personne reparler de cette histoire.
Oui.
Personne ne l'a dit.
Oui.
Et c'était il y a un an et demi. Il disait, c'est le futur. Et bon, bref, donc oui.
C'était le futur unifié de Facebook, de l'appli. Et là, tout à coup, tu dis, bon, oui, ça, bien sûr, ça fait du paiement, du chat, du réseau social, du machin, un peu de gaming, tout ça, ouais, tout ça est totalement cohérent. Et là, tout à coup, il renverse la table. Je n'arrive pas à y croire. Je pense que tout ça est juste un plan de communication pour se dire, encore une fois, parce que la seule motivation de Zuckerberg, c'est de ne pas rater le coup d'après. Or, on le voit, tu vois, Facebook recrute plus trop dans les jeunes générations, donc c'est un peu embêtant pour le coup d'après. Alors, il y a Insta, il y a tout ça, etc. La même raison pour laquelle il avait à l'époque racheté WhatsApp pour si cher, c'était de se dire, voilà un truc qui va nous dépasser par la droite ou par la gauche, c'est un peu embêtant. Metaverse, c'est pareil. Ce qu'il a montré, je suis désolé, ce qu'il a montré, j'ai rien vu de nouveau. Je vais pas dire que c'est indigent, mais avec le temps, je finis par douter de la capacité intrinsèque de Facebook à innover. Ça, c'est le premier problème.
D'accord.
C'est pas leur truc. Ils sont très bons pour prendre les trains en route, pour racheter des gens qui marchent. Voilà, très bien. Ça, ils savent très bien faire. Et le second, la face nord de cette montagne, c'est quand même que si demain on organisait une élection, en disant aux gens, alors, de tous les gens de la planète, à qui faites-vous le plus confiance pour avoir les clés du monde numérique de demain? C'est-à-dire, ma seule question, c'est de savoir, est-ce que Zuckerberg arrive dernier ou juste avant-dernier devant Sauron, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que je me gratte la tête en disant non, ça ne peut pas fonctionner. Personne n'a envie. Même alors
c'est
déjà
comme,
la part de la population.
Comme sa crypto-monnaie Libra qui est devenue Diem.
Non, ça non, je idée, ça mais... ça c'est l'une des meilleures idées qu'ils aient eues parce que on y reviendra parce qu'on manque de monnaies qui soient des monnaies d'échange. Et voilà, assise sur des fondations un peu solides, etc., etc. Donc ça, moi, honnêtement, j'avais pas de problème avec Libra.
Oui, mais personne n'en a voulu parce que c'était Facebook.
Oui, mais surtout parce que tout à coup, les régulateurs s'en sont mêlés. C'est-à-dire que c'était Facebook, donc tout à coup, les régulateurs s'en sont mêlés. Alors qu'on y reviendra, mais ils se mêlent bien moins de plein d'autres projets crypto. Enfin, bon, bref, à la limite de l'escroquerie, enfin, ou même qui passe la limite de l'escroquerie. Bref, mais le problème, c'est ça. C'est que déjà, il faut arriver à trouver la part de la population qui a envie d'aller dans le métaverse. Alors, je sais que l'utilisateur est souvent le plus mal placé pour savoir de quoi il doit avoir envie ou besoin. Soit.
Ouais, mais...
Et derrière, si on lui dit bon, alors c'est tout ça, c'est chez Zuckerberg que ça se passe. Non, mais la réponse est non.
Bon, ok, très bien. Je comprends. Tu n'es pas d'accord avec moi. Je disais qu'on était fait pour s'entendre. Clairement, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien là.
Il faut arriver à dépasser le fait qu'il y a au moins un bon tiers de la population qui vomit quand tu lui mets un casque sur les yeux au-delà de 20 minutes. On va commencer par les vrais problèmes.
On est d'accord. Bon, écoute, je voulais juste dire que la vision à long terme n'est pas celle que certains ont présenté. C'est-à-dire qu'il gens qui disent la réalité virtuelle, bon, on l'a déjà, le métavers, on l'a déjà, et ce que lui présentait comme vision...
On l'a pas déjà. On n'a pas ces plateformes-là.
Voilà, c'est complètement différent et ça va beaucoup plus loin. Bon, très bien. Écoute, je voudrais parler un petit peu de crypto et de NFT et qu'on fasse le point sur ce qui se passe aux États-Unis et en particulier à New York et à Miami. Vous avez peut-être vu passer des informations selon lesquelles le maire élu de New York, donc celui qui prendra son mandat bientôt, Eric Adams, a dit qu'il voulait prendre ses 3 prochaines payes en Bitcoin et pas en dollars sonnants et trébuchants. Et il a fait ça, en fait, ce que beaucoup n'ont pas vu passer, c'est qu'il est dans une sorte de rivalité amicale avec le maire de Miami, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, qui avait dit, lui, en faisant un coup, je vais prendre ma prochaine paye en Bitcoin. Et en fait, c'est une sorte de plan de communication qui s'inscrit dans une volonté politique réelle des deux villes de faire de leur ville le centre de l'industrie de la crypto-monnaie. Le maire de Miami a commencé il y a quelques mois de ça et il fait des facilités fiscales, il communique beaucoup sur l'intérêt de la crypto-monnaie, il veut attirer des startups, des investisseurs, etc. Et des crypto-monnaies, de la blockchain et des NFT, enfin tout cet univers. Et le maire Eric Adams a eu ce discours aussi en disant c'est le futur de la finance, c'est Francis Suarez, merci le chat, pardon. Le maire de Miami, Francis Suarez. Et donc, ils disent, c'est le futur de l'économie, ça va révolutionner la finance, etc., etc. Et donc, il veut lui aussi faire de sa ville le centre de l'industrie de la crypto-monnaie. Donc, il y a cette rivalité un petit peu qui s'est établie. Miami est même en train de lancer une crypto-monnaie qui est basée à Miami, genre le Miami Coin ou un truc du genre. À côté de ça, il y a eu à New York ces derniers jours, une conférence qui s'appelait NFT.NYC, donc les NFT à New York. Et c'était la troisième année, mais c'était la vraie première année importante, avec plus de gens qui voulaient y aller qu'il y avait de place, 5000 personnes sur place, etc. Et c'est une conférence NFT vraiment importante. Pour ceux qui s'en souviennent pas, les NFT, les Non-Fungible Tokens, ce sont des tokens, des jetons sur une blockchain qui sont non duplicables, non copiables, et donc ça peut permettre à quelqu'un d'authentifier la propriété d'un objet, qu'il soit numérique ou non. C'est souvent utilisé pour l'achat d'objets numériques et notamment d'œuvres d'art. On note que des maisons de vente comme Christie's et Sotheby's ont aujourd'hui 5,5% de leurs ventes, des montants qui sont des NFT. Donc, ça commence à représenter quelque chose. Et bien sûr, ils attirent des gens qui sont les Bitcoin millionnaires et les Bitcoin billionnaires, peut-être, qui vont aller acheter des petites images minuscules et un petit peu ridicules, selon certains, à des prix totalement fous. On voit les CryptoPunks, les Evolved Apes, ce genre de choses. Je crois que l'ambiance générale, c'est ça reste... c'est quelque chose d'un petit peu ridicule qui n'a pas d'avenir pour une bonne partie de la population. Et puis en même temps, l'importance de la chose continue à grandir de manière assez, comment dire, incontestable. Et du coup, j'avais envie de te poser la question, Cédric, des gens comme des maires de grandes villes, enfin Miami et New York en particulier, qui se disent « on va faire de notre ville le centre de cette industrie », ça veut dire que les choses sont sérieuses quand même. C'est pas, ça peut, c'est plus du domaine de la blague quand on arrive à ces niveaux. C'est des gens qui savent un minimum de quoi ils parlent, j'espère. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution en particulier donc à New York?
Les choses sont à la fois plus, je pense que les choses sont à la fois plus simples mais plus compliquées que ça. C'est un marché qui est mu par, il y a un attrait de la nouveauté évident, il y a un petit côté revers l'or. On va pas se mentir, c'est aussi quand même propulsé par du blanchiment d'argent, parce que c'est un moyen merveilleux de blanchir de l'argent, des NFT. Tu te vends à toi-même un truc surévalué et tout à coup tu as une chose qui a une valeur que tu te revends à toi-même et donc tout à coup tu peux dire bah voilà comment j'ai gagné cet argent. Enfin tu vois, c'est bref.
À ce propos, j'ai lu un thread hyper intéressant sur la manière dont on peut faire une arnaque aux NFT. C'est quelqu'un qui s'appelle Foon sur Twitter qui expliquait bah tu peux créer un NFT, donc oui. Un objet numérique, oui. Que tu vas vendre. Mm-hmm. Tu dis à quelqu'un, vas-y, je te prête 5 000 $, achète-le et tu gardes 100 $ de plus. Ok, pas de problème. Et puis, tu crées une série de NFT, en fait, comme la série des CryptoPunks ou des Vault Apes, ou ce que c'est. Et puis, tu dis à quelqu'un d'autre, pareil, tu le vends, tu le récupères, en dépensant le même argent plusieurs fois, puisque tu récupères l'argent. Et au final, tu montes la valuation, la valeur boursière, la entre valeur guillemets, de ton NFT. Et tu commences à pouvoir aller attaquer des gens qui sont véritablement des acheteurs. Et toi, en ayant dépensé une somme toute petite, tu peux gonfler la valeur du truc. Et c'est une arnaque, en fait, qui existe qui existe depuis longtemps. C'est la golden brick, je crois. C'est le fait de vendre un truc qui n'a pas de valeur à quelqu'un. On le voit dans des séries, dans des trucs comme ça. Sauf que là, c'est tellement facilité par le NFT, enfin par le fait que ça soit électronique, que ça devient une opportunité majeure. Et en plus, il y a plein de Bitcoin millionnaires et billionnaires qui ont de l'argent à jeter et qui croient en ces technologies et qui sont prêts à acheter ce genre de choses.
Oui. Alors, pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est quand même une techno qui a de moultes intérêts. C'est pour ça, d'ailleurs, que par exemple, les maisons d'enchères s'y intéressent. D'abord parce qu'elle permet aux créateurs de garder la main... dans une certaine mesure au moins, sur la revente de ces œuvres. C'est-à-dire qu'un peintre te vend une peinture, si toi tu la revends demain, si la cote du peintre soudain explose et si tout à coup le prix de la peinture fait x100, le peintre il aura pas gagné un rond de plus, il gagnera plus sur ses nouvelles œuvres. Mais le peintre ou ses descendants, parce qu'il faut jamais oublier qu'évidemment ce qui se vend très cher aujourd'hui, c'est des peintres morts. Et là, dans le NFT, qui est quand même, il y a un smart contract à l'intérieur, etc., etc., tu peux dire que voilà, à chaque revente, par exemple, il y a X% qui reviendront au créateur original. Donc c'est intéressant et ça permet aussi, c'est aussi pour ça que ça intéresse les maisons d'enchères, d'authentifier dans une certaine mesure des œuvres numériques, bref. Donc c'est un outil utile. Maintenant, ce qui se passe autour aujourd'hui, moult aspects absolument pas toujours légal, enfin un peu limite, enfin bref, bon, donc je pense que tout ça va se calmer. C'est un peu comme, souviens-toi, les ICOs, les Initial Coin Offerings en 2017-2018, où tout le monde se jetait sur des trucs qui avaient absolument ridiculement aucune valeur, avant même que les régulateurs disent « Attendez, c'est quoi c'est, qu'est-ce que vous, attendez, vous faites quoi, là ?»
Mais alors, qu'est-ce que tu penses d'Eric Adams qui dit « Je veux que le New York soit le centre de l'industrie
dire, crypto. Dire j'ai envie que ma ville, qui est le centre du monde financier, soit le centre du monde de la nouvelle finance, c'est pas, tu vois, c'est d'une logique éminente, c'est pas bouleversant. Après, qu'il se fasse payer en bitcoin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que pour moi, le bitcoin n'est pas, enfin, c'est pas pour moi, et pas une monnaie d'échange, tu vois, on achète toujours pas nos pizzas en bitcoin. C'est vraiment un store of value, comme on dit, donc c'est pas, c'est plus du lingot d'or que liquide sonnant et trébuchant, mais voilà, il le fait là aussi pour l'image, quoi. Mais ouais. Non, c'est logique que ce soit qu'il se passe des choses à New York autour des crypto-monnaies. Enfin, c'est
il faut
serait même
que...
curieux. Je pense que c'est aussi une réponse à Miami et à tout ça.
Il faut avouer que au-delà des NFT et je crois que souvent dans le public, on a tendance à être un petit peu à balayer ces sujets encore une fois d'un revers de la main de manière un petit peu trop rapide parce que alors que les NFT aient vraiment une valeur ou pas, qu'il y ait un intérêt dans la technologie ou pas, il y a quand même toute une partie de cette branche de la tech qui offre des possibilités, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est DeFi, Decentralized Finance, qui est le mot maintenant qu'on utilise à la mode pour décrire tout ça, offre des possibilités quand même importantes. À la base, le Bitcoin, l'idée était de décentraliser la finance et donc de permettre à des différentes personnes d'avoir une main dans ce type d'activité finalement.
Ouais.
Et ça n'a pas disparu. Et au contraire, ça s'est énormément développé. Alors, le Bitcoin est peut-être utilisé maintenant pour un truc pour lequel il n'était pas prévu. Il y a peut-être des histoires de NFT qui sont vendus à des valeurs incroyables ou des meme coins qui sont sur lesquels vont spéculer des gens mal intentionnés. Mais si on s'arrête à ça, en fait, j'ai l'impression qu'on passe à côté du sujet. Parce que les crypto-monnaies, la blockchain et même les NFT, n'en déplaise à certains, c'est des possibilités qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'elles vont être utilisées de manière intéressante ou pas? C'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais cette effervescence, cette ébullition, elle a une raison, elle a une cause réelle, une cause sérieuse, je crois. Est-ce que je me trompe?
Non, ça répond à des besoins bien réels, ça répond à de nécessaires évolutions, c'est voilà, mais on est dans la phase un peu tu vois qui fait des bulles quoi. Ouais. C'est très voilà, c'est on secoue là ça y est, on a mis juste des mentos dans la bouteille de Coca, donc forcément il y en a partout. Après on va se calmer un peu
des mentos dans la bouteille de Coca, j'aime beaucoup, oui.
Et les choses prendront leur place au fur et à mesure, parce que on est aussi vraiment qu'au tout début du début de, tu vois, la courbe de l'adoption. Où à un moment il va y avoir un à-coup, on va dire ouais, c'est pas si génial que ça, et puis finalement tout le monde peu ou prou fera de la crypto-monnaie à un moment ou à un autre, en le sachant ou pas d'ailleurs. Mais voilà, on est dans cette espèce de phase de ruée vers l'or qui fait des petites bulles partout. C'est intéressant, mais tout ne va pas rester.
Il y a un article intéressant dans Protocol qui parlait des problèmes de taxation avec les NFT et dans une certaine mesure avec les crypto-monnaies, où ils expliquent que selon les autorités qui s'occupent des impôts et des taxes, enfin, à vrai dire, c'est même pas selon ces autorités. Un NFT, c'est certainement pas une monnaie, et donc c'est traité comme un bien, et donc l'achat ou la revente de ces choses-là est soumise à l'impôt et à la taxation. Et aujourd'hui, évidemment, c'est des choses dont on ne se soucie pas énormément parce que ça représente une part minime de l'économie, mais sur le principe, tout ça devrait être taxé, parce que si vous avez une licence pour un objet, si on parle, beaucoup de gens dans le jeu vidéo s'intéressent aux NFT, si on parle de vous avez une licence pour un jeu vidéo, pour un objet dans un jeu vidéo, à l'intérieur de notre jeu et rien n'en sort, là les impôts ils s'en foutent, c'est une licence d'un objet numérique dont vous ne pouvez rien faire, ok. Mais si on commence à parler de NFT et que vous achetez ces objets, qu'ils vous appartiennent dans la blockchain, là, tout à coup, il y a des histoires de taxes. Et quand vous achetez une figurine pour votre enfant au magasin de jouets, les taxes, les impôts, tout ça est déjà rentré dans le système. Alors que pour un objet numérique ou un NFT, etc., c'est pas rentré dans le système. Si vous achetez des tokens de, je sais pas, les Shiba Inu qui sont hyper à la mode en ce moment, après les Dogecoin, qui est une crypto-monnaie, donc les Shiba Inu, bah, en théorie, vous achetez, vous revendez, sur chaque transaction, il devrait y avoir une forme de taxation et d'imposition. Donc, c'est vrai, parce que ce sont pas considérés, ils ne sont pas considérés comme des monnaies, mais comme des biens. Et ça, c'est une bombe qui est en attente d'explosion. Mais à côté de ça, on a la Chine qui a déclaré que vous savez sans doute qu'ils ont leur digital yuan, qui est leur monnaie numérique, leur crypto-monnaie en fait, mais crypto-monnaie d'État stabilisée, etc., qui est utilisée aujourd'hui. Elle est toujours en phase de test. Hein. Depuis 2 ans, ils étendent le nombre de régions qui y ont accès. Mais il y a aujourd'hui 140 millions de personnes qui ont ouvert un portefeuille numérique sur leur téléphone. Et le volume de transactions et de 10 milliards de dollars déjà. Alors évidemment, à l'état de, au niveau de la Chine, ça ne représente pas grand-chose. Mais 10 milliards, c'est quand même pas rien. Et quand on parle d'application, eh ben ça peut en être une monnaie numérique, et tout le monde s'y intéresse, en Europe, aux États-Unis, en Chine, partout. Bah, ça, c'est l'une des applications. Mais il y a des
applications... Mais tu vois, c'est ce qui nous manque jusque-là, c'est-à-dire il nous manque des crypto-monnaies d'usage. Chose où je dis, tiens, je vais t'envoyer, je sais pas, tu vois, 50 euros numériques, et tiens, faut que tu me rendes les 25 livres numériques que tu m'as pris la semaine dernière, etc., etc., de manière simple. Et ça me manque, parce qu'en plus, alors je parle que des principales, mais les frais d'échange aujourd'hui sont quand même un peu tout fous. Donc on n'en est pas encore là. C'est des choses qui vont se débloquer. Hein. Il se passe beaucoup de choses justement en DeFi, en finance décentralisée. Il se passe beaucoup de choses du côté des banques centrales qui ont toutes des plans en disant bon, on est en train de voir comment on avance, à quoi ressemble. Je voyais ce que faisait la BCE sur l'euro numérique. Alors ils y vont avec une timidité, avec une timidité de jouvencelle, c'est-à-dire vraiment. En disant, bon, alors les gens pourront avoir quelques euros numériques, mais pas plus de... Il y a même une limite, c'est genre pas plus de 2000 euros. Non, parce que ça leur pose un vrai problème, parce que tout à coup, vu que c'est toi qui gères ton porte-monnaie tout seul, et que justement c'est totalement décentralisé, tu n'as plus l'intermédiation des banques. Et tout à coup, la BCE se retrouverait comme une espèce de gigantesque banque de... Pas banque de détail, mais c'est eux qui pousseraient des euros numériques. Enfin bon, ouais, donc vu qu'ils sont dans cette analogie-là, et toutes les banques leur disent « Chérie, on vous aime beaucoup, mais c'est-à-dire que si tout à coup les gens ont plus besoin de nous pour échanger de l'argent, c'est quoi notre métier ?» Donc voilà, mais je pense que c'est des choses qui vont être... Mais c'est pour ça que les choses avancent lentement. Il faut qu'il y en ait un majeur, c'est-à-dire un euro, un dollar, même une livre anglaise, qui démarre et les autres embrayeront extrêmement rapidement parce que, de fait, et on revient au raisonnement du maire de New York, c'est quand même des trucs sur lesquels c'est souvent celui qui dégaine le premier qui a raison.
Ça, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il y a une sorte de FOMO un petit peu là-dedans qui
totalement.
Joue. Et juste pour répondre, et puis on va conclure là-dessus, dans la chatroom, on dit si en soi, tu es taxé si tu transfères l'argent sur ton compte. Donc bon, effectivement, si tu transfères l'argent sur ton compte en banque, là, tu es taxé. Mais ce que disait l'article de protocole, qui était intéressant, c'est que chaque transaction est censée être taxée. Et pas uniquement la dernière pour l'impôt sur les revenus, sur la plus-value que tu as fait, sur ton investissement ou un truc comme ça. Le monde même à l'intérieur des NFT est censé être taxé, pas juste quand tu ressors et que tu reviens dans le monde de l'argent normal, en quelque sorte.
C'est compliqué parce que ça pose la question de savoir à quel moment on estime qu'un gain est un gain. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est la fameuse histoire de... Ouais. De chérie, j'ai vendu le chien. Pourquoi t'as vendu le chien? Je l'ai vendu 50 millions. Oh, t'as vendu le chien 50 millions? Oui, regarde, j'ai acheté 2 chats à 25 millions. c'est une vieille blague de la bulle internet, la vraie, la vintage. Et du coup, c'est compliqué de savoir à partir de quel moment on estime que tu as vraiment gagné de l'argent. Parce qu'on le fait sur une valorisation qui est pas réalisée. C'est le grand débat en ce moment autour de l'espèce d'impôt sur la fortune que les Américains veulent mettre en place. C'est même pas sur la fortune, hein, c'est sur la fortune de 70 personnes. Et où Elon Musk, comme d'autres, dit « Ouais, enfin là, vous êtes en train de m'imposer en gros sur le cours de l'action Tesla, mais moi, j'ai bien dit que je serais le dernier à vendre mes actions, donc c'est un peu compliqué. Vous allez me forcer à vendre des actions pour payer les impôts.
» Oui, et puis en plus, si c'est par année, il faut que tu vendes chaque année une partie de tes actions pour réaliser tes... Mais bon, enfin bref, c'est un autre sujet.
Oui, c'est ça. Et qui sait de quoi l'avenir est fait, tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'aux États-Unis... évidemment, t'es imposé sur les plus-values de ton portefeuille boursier, mais tu peux aussi déduire tes pertes, ce qui n'est pas le cas partout. Et donc là, enfin voilà. Donc c'est alors surtout sur un truc comme le NFT, si tout à coup on impose tes transactions à l'intérieur, si tu veux, de l'écosystème, sans attendre que tu les ressortes sur un compte bancaire en espèces dans tes trébuchantes, ouais, c'est compliqué.
Bon, écoute, je ne sais pas si on aura une réponse à ces questions dont on ne comprend même pas la nature, en fait, mais les discussions continuent. Si vous allez à New York ou à Miami, sachez que vous serez bientôt dans l'une des capitales de l'industrie de la crypto. C'est une affaire qu'on continuera à suivre. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission ? Est-ce que vous l'aimez bien ? Si oui, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que est-ce que par exemple, ok, voilà ma question. Si vous avez le choix entre un café et le rendez-vous tech, genre quelqu'un arrive dans la rue et il vous dit aujourd'hui vous pouvez soit écouter le rendez-vous tech, soit avoir un café en plus. Ou alors, je sais pas, si vous écoutez le rendez-vous tech, on vous prend un café sur votre liste de cafés que vous avez. Sinon, vous pouvez avoir tous vos cafés, mais pas de rendez-vous tech. Qu'est-ce que vous choisissez le mardi ou le mercredi quand vous écoutez l'émission ? Eh bien, si votre choix, c'est « Oh, ben, j'abandonne un café pour écouter le rendez-vous tech », ça veut dire que peut-être le rendez-vous tech vaut bien le prix d'un café. Est-ce que là, j'ai réussi à vous faire une analogie qui est encore plus compliquée que les NFT?
And therefore, she's a witch.
Exactement. Les Monty Python. Alors, il y a des gens qui me disent, je bois pas de café, machin. Vous avez compris ce que je veux dire. Le choix entre un café et le rendez-vous tech. Si vous choisissez le rendez-vous tech, allez sur patreon.com/rdvtech pour regarder ce que je peux vous proposer. Parce que non seulement...
C'est les trucs indécidables. Préfères-tu un monde sans printemps ou un monde sans musique?
Écoute, si dans cette analogie que le rendez-vous tech soit le printemps ou la musique, je crois que je suis flatté, quoi qu'il arrive. Donc, vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous regardez si pour 1€, 2€, vous pouvez soutenir l'émission et avoir des trucs qui vous conviennent dans les bonus, comme par exemple les timecodes pour aller au sujet qui vous intéresse, ou alors, par exemple, vous pouvez avoir ou alors, vous avez aussi les épisodes bonus, vous avez les épisodes sans pub, évidemment, etc., etc. Et en plus, la fierté dans votre âme de soutenir le rendez-vous tech. Ça, c'est important, messieurs, dames. Ça, c'est important, messieurs, dames. Donc, patreon.com/rdvtech, c'était l'une des pires promos que j'ai fait de ma vie. J'espère que ça donnera quand même des résultats.
Non, mais ça va, de toute façon, on n'est pas en direct, donc tout va bien.
Twitch.tv/notepatrick.
Pardon.
Tout le monde a
excusez-moi.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que, Cédric, tu sais que les drones servent à attaquer des infrastructures maintenant ?
Au moins potentiellement, oui.
C'est la nouveauté. Il y a des précédents. Oui. Le FBI et le DHS, le Department of Home Security, ont déclassifié une attaque par drone qui a eu lieu en 2020. Ça ne date pas d'hier, mais ils en ont parlé aujourd'hui. Et en fait, il s'agit d'une attaque où un drone a été envoyé en 2020 en Pennsylvanie, je crois. Je relis l'article de Wired. En Pennsylvanie, c'est un DJI Mavic 2 auquel avaient été attachés des fils de nylon et un câble en cuivre avec du electrical tape, tu sais, du
Chatterton.
Voilà. Et il était censé, du coup, arriver sur les câbles électriques et les endommager ou sur la centrale elle-même. Il se trouve qu'il s'est écrasé sur le toit d'un bâtiment de la centrale, mais c'était vraiment une attaque par drone aux États-Unis en 2020 sur une infrastructure. Alors, le drone avait tous ses éléments distinctifs supprimés, ils avaient même enlevé la caméra. Donc, ça veut dire que la personne qui le contrôlait était vraiment en ligne de vue directe avec l'appareil pour pouvoir le contrôler et l'envoyer là où il voulait l'envoyer. On me dit dans le chat, moi j'attends l'offre bundle, le café et notre Patrick dans le même pack. Il faudrait que j'aille parler à des, mais seulement des cafés premium. Hein. On va pas faire des, genre je sais pas, il faudra que je m'intéresse à ces choses-là. Est-ce que c'est bien Nespresso ou c'est considéré comme
Non, c'est fini ça.
C'est fini. Ah merde. Non, ok, d'accord.
C'est pas fini, mais c'est pas désirable. De toute façon, le café déjà moulu, c'est de la poussière. C'est pas
bon. Enfin, bon je, très mais bien. Il faudra que je parle à des vrais, peut-être avec votre cafetier de quartier. Bon, bref, je parlais donc des drones DJI Mavic 2. Donc il a, c'est une vraie attaque et je peux tout à fait imaginer. Alors peut-être que je me fais des films, mais je peux tout à fait imaginer les agents russes, tu sais, qui ont fait un test comme ça en Pennsylvanie en 2020 et qui, en attendant, ont emmagasiné genre 2000 drones achetés au cours des mois et des années pour pas se faire repérer et qui sont prêts, si besoin, à envoyer des attaques de drones sur toute l'infrastructure électrique américaine. Alors, évidemment, un drone sur une paire de câbles, ça va pas faire exploser l'infrastructure, surtout que ça va être c'est un petit appareil et ça va pas sur une grande centrale faire beaucoup de choses. Mais si t'en envoies beaucoup, je peux tout à fait imaginer que une centrale qui a plus assez d'électricité, elle va tirer sur une autre et donc en cascade, ça va provoquer une panne de plusieurs heures, de plusieurs jours, qui peut faire de vrais dégâts, quoi.
Oui. Donc on ne sait pas, est-ce que ce sont des agents russes ou chinois ou est-ce que c'est trois mecs dans un pick-up avec deux packs de bière.
c'est la magie des drones. Et ce qui est notable, hein, j'y ai fait allusion mais je ne l'ai pas bien expliqué, il y a déjà eu des attaques de ce type ailleurs et on a eu des théories que ces attaques seraient possibles depuis longtemps. Là, c'est la première fois qu'on apprend que c'est... Que c'est la première vraie attaque aux États-Unis ou tentative d'attaque aux États-Unis sur une infrastructure avec un drone. Et donc, ça a commencé, quoi. C'est pas juste en théorie, ça pourrait être fait. Ça a déjà eu lieu. C'est assez intéressant. Mmh. Et comme tu le dis, le plus intriguant là-dedans, au niveau tech, c'est que, encore une fois, ça rend des choses accessibles au plus grand monde. Et donc, un DJI Mavic, ça coûte quoi? 1 000 $? 2 000 $?
Oui, ça coûte un petit millier d'euros, oui.
Ouais, quelque chose comme ça. Je ne sais plus lesquels coûtent combien. Le Mini coûte 300 ou 400 ou 500. Le Mavic coûte
500, 600. Il est sublime, le Mini. Il est
ouais, moi, j'ai failli en acheter un. Et puis, je me suis ravisé parce que le 3 va peut-être arriver à un moment dans quelques semaines ou quelques mois. Mais il n'a pas l'air d'arriver. Donc, bon, bref.
Connaissant DJI, je te promets, il va y avoir un 3.
D'accord. Mais la question, c'est quand ? Mais du coup, ces drones-là sont accessibles à n'importe qui. Et pour se défendre contre ces drones, c'est Mission Impossible. Mission Impossible, pas le film, mais c'est tellement petit, ça passe sous les radars métaphoriques. Personne ne peut les voir, les repérer. Et pour se défendre contre ça, il faut des drones soi-même, peut-être, des drones chasseurs de drones. On a vu des expériences, enfin, des drones chasseurs de drones avec des filets, par exemple. Ou alors, on a vu des exemples avec des oiseaux, des aigles ou des choses comme ça qui chassent les drones. Le problème, c'est que là, on parle d'une infrastructure en Pennsylvanie qui est minuscule. On ne parle pas d'une grosse centrale qui serait un point que tu dois défendre, mais c'est des endroits minuscules, il y en a des centaines.
Oui,
voilà,
bien sûr, exactement. Tu vas pas mettre un flic devant chaque transformateur. Mais en revanche, pour les infrastructures vraiment sensibles, là, il commence à y avoir toute une panoplie de solutions qui vont du brouillage, évidemment, jusqu'à... Moi, j'avais vu, j'étais allé il y a 2-3 ans, à Midipol, qui est le salon des technologies pour les forces de l'ordre, l'armée, les commandos et le reste. Et il y avait, entre autres, chez un exposant, une espèce de... On aurait dit un BFG 9000, hein, souviens-toi, tu sais, l'espèce de...
le flanon comme un fusil.
C'est ça. Une espèce de monstrueux truc. Et je disais, ah, mais c'est une arme anti-drone. Ah bon, mais alors, ça fait quoi? Ça le zappe. Ah oui, mais ça... Comment ça? Mais à quelle distance? Je ne peux pas vous le dire. Mais ça marche comment, au juste?
Électrique,
je
tu
ne
veux
peux
dire?
Pas vous le dire.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, d'accord. Je ne sais pas. Une sorte de ray gun, tu vois, je ne sais pas. Enfin, un truc... je pense que ça envoie...
Est-ce que ça envoie un EMP localisé, dirigé comme un laser?
Voilà. C'est ce que je pense. Mais ça me paraît tellement fou. Il voulait rien. Il voulait... C'était genre... Je voudrais en savoir plus. Non. Partez, monsieur.
Très intéressant. Bon, écoute, il y a...
Je disais, mais si ça marche sur les drones, ça peut marcher sur d'autres choses. Silence.
Est-ce que ça marche sur les pacemakers? C'est la grande question.
Ça serait un problème.
Oui, et clairement. Bon, bah écoutez, on continue avec nos petites news et rumeurs. Est-ce que tu as vu le tweetstorm de Brian Chesky? Brian Chesky, qui est le président de Airbnb. Il a dit des choses assez intéressantes. Tu l'as vu, ce tweetstorm, ou pas? D'il y a 5 heures, 6 heures?
Non, pas encore, non. Je dois dire que écoute, je suis passé à côté de ça.
Il a fait un petit tweetstorm, une série de tweets, où il parle du futur du voyage. Et il a des arguments, ou plutôt des éléments de réflexion hyper intéressants. Il nous dit que, selon lui, nous sommes au début d'une révolution dans le voyage. Alors, c'est le président de Airbnb. Hein. Donc, lui, le fait qu'on voyage et qu'on aille dans des logements autres que les nôtres, ça l'arrange. Donc, il faut le garder à l'esprit. Ça lui va, exactement. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est que la pandémie a évidemment accéléré le travail à distance et a même imposé et installé durablement le travail à distance chez de nombreuses personnes et de nombreuses sociétés. Pas tout le monde, mais de nombreuses sociétés sont dans ce type de philosophie aujourd'hui, de contexte. On a les outils avec, on utilise Zoom comme mot pour résumer ou comme outil pour résumer tout ça, mais on a les outils pour travailler à distance aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu, beaucoup de gens aux États-Unis sont dans ce qu'on appelle
The Great Resignation.
C'est ça, The Great Resignation. Oui. Plein de gens qui faisaient des boulots qu'ils n'aimaient pas, qui ne reviennent pas à leur boulot et qui préfèrent faire des boulots de chez eux ou à distance, ce genre de choses. Bref, ce que dit Chesky, c'est qu'il voit sur Airbnb des signes de montée du voyage, mais un voyage différent. C'est-à-dire que les gens vont dans d'autres endroits alors qu'ils continuent à travailler parce qu'ils peuvent travailler de n'importe où. Et moi, évidemment, ça me parle beaucoup, parce que je suis dans cette situation depuis des années. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus assidus d'entre vous depuis longtemps, que j'avais été avec ma femme en 2016 au Japon pendant 3 mois, et je travaillais du Japon, je continuais à faire exactement le même travail depuis le Japon, parce qu'il n'y avait aucune raison de faire le travail que je fais d'un endroit précis. Et il dit, on est en train de voir ça, ce qu'a fait Patrick, hein, il le dit, hein, Chesky, dans ses tweets, comme Patrick, en 2016 au Japon, oui. De plus en plus de gens sont en train de travailler de n'importe où. Et il a donné des éléments intéressants que je note. Les jours qui grossissent le plus pour Airbnb, c'est le lundi et le mardi, donc pas le week-end. C'est des familles qui voyagent en semaine, en début de semaine, peut-être en allongeant le week-end. Et il mentionne aussi qu'entre juillet et septembre de cette année, une nuit sur cinq faisait partie d'une réservation d'un mois ou plus. Donc les gens vont de plus en plus, en fait, pour des durées longues, en travaillant ailleurs que chez eux. J'ai trouvé ça intéressant.
Pas nécessairement, parce que si tu parles du marché américain, les gens, ils n'ont pas un mois de vacances contiguës, hein, faut pas se mentir.
Non, bien sûr, mais justement, les gens prenaient un mois de vacances, entre guillemets, de réservation chez Airbnb, l'idée étant que ils vont un mois quelque part en travaillant, en continuant à travailler, et ils vont travailler d'ailleurs que de chez eux. Et donc,
ouais, avec certains qui faisaient une sorte d'arbitrage, parce que par exemple, de fait, si tu habites dans la Silicon Valley, enfin dans une grande ville américaine, tout à coup, toi, ton bien à toi, tu peux le louer sur Airbnb pour pas mal d'argent. Alors que la cabane que tu réserves dans l'Idaho, elle va te coûter beaucoup moins cher. Donc en fait, les gens faisaient une sorte d'arbitrage comme ça en disant bon, on va où ? Il faut que ce soit chouette et qu'il y ait la fibre. Et le reste a pas beaucoup d'importance.
Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant. Je sais pas si on le voit autant en France. Peut-être pas. Je sais pas.
Je ne sais pas.
Mais clairement, la tendance a l'air de gagner en puissance. Il cite aussi des grosses sociétés comme Amazon, Procter & Gamble, Ford, etc., qui augmentent la flexibilité du travail à distance. Je crois que la tendance est notable et pourrait possiblement continuer à augmenter, quoi. Mm-hmm. Vraiment intéressant. On va parler d'un truc qui justement va plaire à Cédric. On va parler Tesla. Est-ce que tu peux nous... Tu as, j'imagine, entendu parler de l'histoire du rappel des 11 000 voitures quand il y a eu un problème sur la conduite autonome, que Tesla a dû faire un rappel des voitures.
Pas personnellement, mais ce n'est pas un vrai rappel.
Eh bien voilà, c'est ça qui est intéressant. Numérama en a fait un petit article où ils expliquent que là où d'autres constructeurs auraient dû rappeler les voitures, Tesla, tu peux nous dire ce qu'ils ont fait, du coup, Cédric.
Ils ont fait une mise à jour.
Voilà.
Comme il en arrive, pour ainsi dire, enfin, tout le temps est un bien grand mot, mais j'ai l'impression que j'ai des mises à jour plus régulières pour ma voiture que pour mon téléphone maintenant. non, mais ça se fait, tu vois, ça se fait un peu en tâche de fond, et il te dit, là, vous voulez lancer de la mise à jour? Oui, alors par contre, une fois, il a fallu que je reprenne la voiture, alors qu'elle, c'était curieux de dire, ah non, là, je peux pas venir tout de suite, ma voiture est en pleine mise à jour.
ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps la mise à jour de la voiture?
Et le système te demande, si mes souvenirs sont bons, de budgéter 20-25 minutes.
Bon, ça va encore.
C'est comme une mise à jour de macOS, tu vois ce que je veux dire. mais d'ordinaire, c'est un truc que tu lances, tu vois, le soir en arrivant chez toi en disant c'est bon, demain matin, ça sera fait. Enfin, pas vraiment un souci. Mais c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses. Je me souviens plus sur quel truc. Il y avait le régulateur américain qui s'occupe des questions de sécurité routière, la NHTSA, NHTSA comme on l'appelle, les avait avertis un jour en disant tiens, regardez sur tel modèle les performances de freinage peut-être. Enfin, je sais plus quel était le souci exact. Et ils avaient dit ah bah tiens oui c'est vrai, non mais il y a pas de raison que ce soit comme ça. Et deux semaines après ils avaient poussé une mise à jour. Ouais. Et NHTSA avait même fait un communiqué en disant c'est ahurissant, on n'avait jamais vu un truc pareil. Ils ont réglé un problème à distance pour toutes les voitures qui étaient déjà sur les routes, ce qui ça, évidemment simplifie la vie des conducteurs et simplifie immensément la vie de Tesla aussi. Mais c'est leur immense puissance, c'est quand même le logiciel, c'est-à-dire que on attendait de voir par exemple les ventes de Tesla sur le dernier trimestre. Et en se disant bon, ils vont être comme les autres, ils vont souffrir de la pénurie de composants. Alors, ils en ont peut-être souffert, mais c'est sans commune mesure. Ils ont fait des ventes records. Et la question a été posée à Musk en disant, non, mais attendez, vous avez certains concurrents qui ont des lignes de production totalement arrêtées. Il y a des concurrents qui changent la configuration de leurs voitures. Je voyais BMW aux États-Unis maintenant sort des voitures dont les écrans sont pas tactiles. Enfin, parce qu'ils ont pas les composants. Comment faites-vous? Et lui a expliqué que c'était une question c'est un truc à l'Apple. C'est une question d'intégration verticale. C'est-à-dire que ils font tout. Et vu qu'ils font tout, ils ne dépendent de, on peut pas dire qu'ils dépendent de personne, c'est faux, parce qu'ils intègrent aussi des composants d'autres constructeurs. Mais ils expliquaient que quand ils se sont retrouvés face à une pénurie d'un composant sur un système en particulier, souvent il y a des alternatives, mais le problème c'est qu'il faut redévelopper le firmware qui va avec. Mais chez eux, les développeurs sont là. Ouais. Et donc, ils expliquent qu'il y a des systèmes pour lesquels ils ont développé, redéveloppé, redéveloppé, etc., etc., pour arriver à tenir la cadence et à trouver des solutions de remplacement. Et c'est ça qui fait leur force. Moi, l'histoire que je raconte souvent, c'est que avant d'acheter une Tesla 2 ans avant, j'ai acheté une Volkswagen. Et j'étais content parce qu'il y avait, comment ça s'appelle? Le truc d'Apple, flûte, pas Apple Auto. Apple. Ça, c'est Android Auto. L'autre. À CarPlay, absolument. Donc, c'était chouette, ça faisait les deux, c'était malin, etc. Et puis, en plus, je voyais que dans les fonctions de la voiture, il y avait mise à jour du système, donc arrivée de nouvelles fonctions. Je l'ai gardée 2 ans, cette voiture. J'ai eu 0 mise à jour en 2 ans. Rien. Pas la queue d'une, rien. Pas la carte, rien. Pas la cartographie, rien du tout. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un... C'est une des choses qui explique la valorisation absolument monstrueuse de Tesla. C'est pas tant les résultats d'aujourd'hui, c'est une forme d'avance que même les concurrents reconnaissent. Là, le patron de Volkswagen est apparemment in hot water, comme on dit, parce qu'il n'arrête pas de dire autour de lui, non mais regardez l'avance que Tesla a sur nous, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à rattraper. Et apparemment, ça se passe pas très bien, parce qu'il a fait ça, il a invité Musk, enfin, ils se connaissent bien. Même le patron de Ford, la semaine dernière, a fait la même chose en disant, regardez, quand on se demande ce qu'il faut faire, il faut regarder ce que fait Tesla.
C'est une des choses dont je voulais parler, effectivement, Jim Farley, le patron de Ford, toujours chez Numérama, qui explique que personne ne fait mieux que Tesla, que pour toutes les raisons que tu as évoquées. Il a aussi donné quelques données intéressantes. Il dit que le Model 3, c'est le véhicule qui se vend le mieux en Europe, pas juste au rayon électrique, mais dans l'ensemble des véhicules, tout véhicule confondu, c'est le Model 3 qui se vend le mieux en Europe, et c'est en Californie, ça arrive régulièrement aussi. Et j'ai l'impression que on se rend presque plus compte de que Tesla étant passé dans le, je sais pas comment dire, mais la connaissance générale des
des gens étant devenu mainstream, dirons-nous.
Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça.
Un peu plus.
Et c'est plus, on s'en rend plus compte, mais en fait, ça reste extrêmement innovant comme.
Moi, il y a quoi, il y a 3-4 ans, j'avais lancé une série de vidéos à LCI qui s'appelait Elon Musk, l'envoyé du futur. Parce qu'en fait, le fait qu'Elon Musk fasse des choses qui à chaque fois réussissent à la fin ne peut avoir qu'une explication, c'est que lui, il sait comment l'histoire se termine. C'est donc un envoyé du futur. Et pour l'instant, je n'ai rien trouvé qui vienne me détromper.
Contredire.
parce qu'à chaque fois qu'il dit un truc, et finalement, ça marche. Faut se souvenir qu'il y a 3 ans, Tesla, ils ont failli mourir. Hein. Ils étaient, alors qu'aujourd'hui, ils marchent sur l'eau, quoi.
Ouais.
Et ça prend pas. Et si tu veux, toutes ces choses qu'on se disait en disant non, mais attendez, vous allez voir, le jour où les vrais constructeurs vont s'intéresser à ce marché, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, on s'aperçoit que le problème des vrais constructeurs, c'est qu'ils ont un existant, un passif, un passé, une infrastructure, qu'est-ce qu'elle est, des revendeurs, des machins, des technologies.
C'est l'une des choses dont parle Farley d'ailleurs. Il dit Tesla, ils vendent en direct à leurs clients. Nous, on a toute cette... Et tu peux pas t'en passer aujourd'hui. Tu peux pas détruire tout le système en 2 secondes et te dire, on va vendre nous Ford en direct parce que tu reposes tout ton business repose sur un ensemble de concessionnaires, etc., etc. Donc, bref.
Dont le business, à son tour, repose sur la maintenance de voitures qui, soudain, vont plus avoir besoin de maintenance. C'est très compliqué parce que le problème, c'est que qui va être le premier à annoncer un plan stratégique en disant, non, mais c'est fini, on va reprendre pour nous toute la revente des voitures. C'est-à-dire, le modèle du concessionnaire, c'est terminé. C'est compliqué, parce que le jour où tu l'annonces...
exactement.
T'as plus d'amis, quoi.
C'est comme on le dit dans le chat, c'est la même situation que la téléphonie quand Apple est arrivé. C'est pareil, c'est une situation où un marché plan plan, voit arriver une boule dans un jeu de quilles, quoi. Ça bouscule tout, tu as fait les choses différemment. Et ceux qui sont déjà en place, qui sont les gros acteurs, ont beaucoup de mal. C'est des cargos, des navires énormes, des paquebots, c'est ce que je voulais dire. Et ils mettent très longtemps à tourner, alors que les petits arrivants, les petites startups, même si je pense que Tesla n'est plus une startup dans les faits, ils sont beaucoup plus agiles. Bref, très intéressant en effet. Un autre sujet que je voulais évoquer, là on revient en France, c'est ces deux lois qui ont été votées par le Sénat. D'une part, une bonne chose, c'est-à-dire que désormais les constructeurs de téléphones n'ont plus l'obligation d'inclure les écouteurs dans leur boîte, dans la boîte de téléphone. C'était une loi qui a maintenant 10 ans et qui était vue un petit peu différemment à l'époque. À l'époque, c'était la défense du consommateur. Aujourd'hui, les préoccupations sont plutôt du côté du gaspillage et du réchauffement climatique et de ces questions. Et aussi le fait, il faut bien l'avouer, qu'en 10 ans, on a accumulé des écouteurs partout parce qu'on a tous acheté plusieurs smartphones.
Dans les tiroirs, ouais.
C'est moins nécessaire, évidemment. Mais dans le même temps, le Sénat a aussi approuvé la loi sur la copie privée, la taxe sur la copie privée, sur le reconditionné, ce qui est quand même assez surprenant, enfin pas surprenant, mais qui a assez peu de sens, puisque, alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la loi en question, c'est une loi qui taxe les supports de stockage, que ce soit les disques durs ou les téléphones qui incluent en fait un disque dur, enfin un SSD, pour rémunérer les artistes, en particulier dans la musique, mais pas que, parce que on a la copie privée, c'est-à-dire à la base l'idée de copier un CD sur une cassette ou un CD sur un iPod ou ce genre de choses, et ben ça constitue une copie et donc ça doit être compensé pour les artistes. Cette taxe était appliquée aux appareils neufs, elle sera maintenant appliquée aux appareils reconditionnés, donc à l'occasion, on en avait déjà discuté pendant un moment, mais d'une part, ça va faire que les appareils seront taxés deux fois, ce qui est assez ridicule.
Ce qui est dingue, parce que la loi était assez claire là-dessus, hein, c'était l'appareil est taxé à sa première mise en circulation. Donc, non, mais c'est à rebours de tout, c'est à rebours de l'économie circulaire, c'est à rebours du meilleur usage de machin, enfin c'est voilà. Et puis en plus c'est mal foutu parce que il y a plein d'acteurs à qui ça va pas vraiment s'appliquer, donc ça va créer des distorsions de concurrence entre ceux qui font tout en France et les autres, enfin c'est fait partie des choses qui navrent. Bon, ça n'aura probablement qu'un temps, c'est peut-être pas si grave que ça, c'est ça. Mais et puis en plus c'est quand même mis en œuvre par des gens qui sont à la limite de la filouterie, quoi. Cette taxe, par exemple, si t'es une entreprise, elle est censée être remboursée. Ceux qui ont fait l'essai te diront que c'est plus facile, si tu veux, d'aller chercher les fragments du vase de Soissons que de te faire rembourser 20 balles de taxe sur l'achat d'un smartphone. Bref,
Il y a un autre truc que je vais ajouter à ce sujet. Aujourd'hui, plus personne ne copie quoi que ce soit.
Enfin, on peut pas dire plus personne jamais.
D'accord, j'exagère peut-être un peu.
Voilà. Mais ce n'est plus le phénomène que c'était il y a 10 ou 15 ans, bien évidemment.
Enfin, je veux dire, qui aujourd'hui n'écoute pas sa musique en streaming ? Je suis sûr qu'il y en a, mais on est d'accord que...
Ou alors, ils ont déjà leur collection de trucs ripés à partir de leur CD machin, ou alors c'est des maniaques.
Je pense qu'ils se sont fait leur... en grande partie, tu te refais tes playlists sur Spotify ou Apple Music ou Google Music ou ce que c'est. Tu vas pas continuer à transférer tes fichiers MP3 ou MK2 ou ce que c'est, à la limite si t'es un maniaque de l'audio et que tu as des fichiers en FLAC auxquels tu tiens comme à la prunelle de tes yeux, peut-être. Mais même aujourd'hui, on a de la HD qui commence à devenir correcte dans les services de streaming. Tu vois, même ceux qui ont leur collection, je pense qu'ils sont très très rares et je suis sûr que certains dans l'émission vont lever la main en disant « Si, moi je le fais ». Bon, ok, peut-être. Mais le streaming est quand même le moyen essentiel d'écoute de musique aujourd'hui, donc.
Non, mais on est clair sur le fait qu'on est en train de taxer des usages qui sont devenus, qui n'existent plus ou presque, sur des machines qui ont déjà payé la taxe. Alors attention, ouais. Quand tu dis taxe, on prend une volée de bois vert, on dit non, c'est une redevance. Rien à voir avec une taxe. Parce que si c'était une taxe, il faudrait que le Parlement s'en inquiète. Puisqu'on vous dit que c'est pas une taxe. Et ça montre quand même la puissance politique, le poids politique des industries de contenu. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle sur le fond, mais là, en l'espèce, c'est quand même... c'est juste pas brillant. Quoi.
Ouais, on est d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais bon, bref. Deux petites choses pour conclure. D'une part, tu te souviens de cette histoire de l'Espagne qui exigeait de Google qu'il rémunère les organes de presse pour leur présence dans Google News, qu'ils soient d'accord ou pas d'ailleurs, Google News, c'était une obligation.
Comment oublierais-je ?
Eh bien, tu te souviens de ce qui s'est passé à la suite du passage de cette loi ?
Alors, où ça ?
Parce qu'il y a en Espagne, plusieurs...
En Espagne, parce qu'il y a eu l'Espagne et la Belgique. Oui, Google avait dit, écoutez, on va voir, moi, on va fermer Google News, si apparemment ça vous ennuie.
Exactement, ils ont donc fermé Google News, c'était il y a quoi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'Espagne a modifié la loi en laissant à chaque organe de presse le soin de négocier individuellement avec Google la manière dont les choses se passent. Et donc, Google News va sans doute revenir en Espagne, en début d'année prochaine, suite au changement de cette loi. Donc, dans le rapport de force, encore une fois, et souvent on est critique des GAFAM, mais là en l'occurrence c'était une loi qui était alors pas aussi inepte que celle qu'on vient d'évoquer, mais qui était clairement mal pensée, on va dire. Et là, dans le rapport de force, c'est Google qui a fini par prévaloir.
C'est ce qui s'applique chez nous. C'est compliqué.
La nouvelle version de la loi en Espagne, c'est-à-dire là où on peut choisir, Google négocie avec chaque organe de presse, c'est ce qui se passe chez nous depuis presque le début, en fait. C'est bien ça.
Ah non, chez nous, non, tu plaisantes, droit voisin, tout ça, oulala, ils sont forcés de négocier.
C'est ça, compliqué ils négocient au cas par cas. Ils ne sont pas obligés de payer. Il y a un aspect négociation qui fait partie de la loi. Ils négocient avec les organes de presse. Je ne dis pas de bêtises, Il y a une négociation et ils ont trouvé des accords avec plusieurs syndicats de presse. Est-ce que je me trompe là-dessus ?
Je ne sais plus où on en est chez nous parce qu'il y a quand même
tellement d'allers-retours.
C'est un très long match de tennis.
C'est ça.
Parce qu'évidemment, eux, quand le projet de loi est arrivé, Google a dit non, mais attendez, nous, de toute façon, il n'y a pas de problème. Bien rétribuer la presse, etc. Mais après, évidemment, ils l'ont fait en disant ça tombe bien, on va lancer un service premium d'accès à la presse et on va proposer des contrats sonnants et trébuchants aux entreprises de presse, etc. Et là, le législateur a dit non, c'est pas ça qu'on avait dit. j'ai le souvenir d'un édito, si mes souvenirs sont bons, d'Étienne Jernel, grand confrère du Point. Je crois que c'était intitulé Google entreprise malfaisante. J'ai toujours trouvé ça un petit peu excessif. Et surtout, l'édito lui-même contenait des choses qui n'étaient pas compatibles entre elles, qui étaient en gros de dire l'audience que nous rapporte Google est essentielle à notre économie, mais Google doit nous payer.
C'est le cœur du de la contradiction de toute cette histoire. C'est exactement le problème.
Oui, parce que moi je rappelle ça fait presque 20 ans. Je crois Google News c'est sorti en quoi 2001, 2002, 2003. Et dès le début d'ailleurs il y avait des titres de presse qui disaient non mais attendez il y a peut-être des gens qui vont s'informer juste en regardant la homepage de Google News. C'est possible. Moi, il m'arrive d'y jeter un œil, ne serait-ce que pour vérifier que je suis pas en train de rater quelque chose. À l'époque déjà, Google avait dit ouais, ok, on comprend. Il faut que vous ayez un peu de contrôle sur ce qui se passe chez nous. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, un titre de presse qui te dit oh là là, mais nous, on apparaît sur Google, mais on n'a pas envie, c'est qu'ils font pas le job parce qu'en fait, eux peuvent avec une grande granularité déterminer ce qui peut apparaître, pas apparaître, uniquement un lien, un résumé, pas de résumé, une photo, pas de photo. Ils peuvent même demander à ce que des liens vers des articles payants apparaissent dans l'index. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont quand même vraiment la main dessus. Dire après, c'est affreux, Google nous vole. C'est un peu compliqué, surtout pour des pour des médias gratuits qui reposent sur l'audience. Alors, le fait que la pub sur Google et vampiriser toute une partie du marché, c'est pas faux, mais voilà, on va pas leur en, c'est difficile de leur en vouloir d'avoir inventé des trucs qui marchent et d'avoir investi dedans immensément. Enfin, c'est toujours le même problème. Donc voilà, là aussi il y a pas câbler personne, mais il y a parfois une certaine dose de soit d'aveuglement, soit de mauvaise foi dans certains arguments.
La preuve, là, avec ce qui se passe en Espagne, je pense que ils ont voulu faire un forcing qui n'avait pas de sens et bah, ils ont été obligés de faire marche arrière. Dernier petit sujet que je voulais évoquer et qui sera aussi dans la newsletter, si vous voulez aller regarder ça, c'est une artiste qui s'appelle Mary Spender qui a testé le nouveau Mac M1 pour enregistrer un morceau. Et enregistrer un morceau à la guitare, donc un morceau de musique, uniquement avec le Mac. Elle a fait un clip en même temps avec la webcam. Alors, c'est juste elle qui est devant la webcam et qui chante. C'est pas inoubliable. Par contre, le son, la musique qui est enregistrée avec le micro du nouveau Mac est impressionnante. Alors, je vais voir si je vais pouvoir vous passer ça. J'espère que ça ne va pas me bloquer sur YouTube. Je vais passer juste quelques secondes. Normalement, si je fais comme ça, vous allez pouvoir entendre. Je fais comme ça. Et comment on fait pour que toi, tu entendes ? Je crois que c'est juste ça. Ça suffira. Et pour que sur l'enregistrement, ça s'entende aussi. On va faire comme ça. Écoutez ça. Ça, c'est le micro du Mac M1.
You're my one kept secret. Wow. You're my one kept
secret. Bon, alors elle enregistre dans un studio, hein, tout ça, mais c'est assez incroyable quand même, non?
Ça, c'est comme quand Apple faisait des démos en disant, regardez, voilà un film qui a été entièrement tourné à l'iPhone.
Ouais, c'est
et
ça.
D'un coup, tu vois le making of, et sous l'iPhone, il y a un stabilisateur qui vaut le prix de 5 iPhones. Et
Écoute, là, vous mais irez voir.
Elle a mis de la mousse au mur.
Ah bah, et bien sûr, elle est dans son studio d'enregistrement. Mais tu vois effectivement dans la vidéo qui dure 8 minutes où elle montre comment ça a été fait, tu la vois parler à différentes distances du Mac pour avoir différents types de sons. Et c'est juste elle qui parle dans son Mac, tu vois. Elle parle à l'écran, en fait.
C'est remarquable. Du Mac.
C'est incroyable comme qualité quand même.
Je pense que là encore, c'est beaucoup de logiciels derrière les micros.
Ah oui, elle fait le montage, enfin le comment dire, le mixage, elle fait tout ça elle-même à la main.
Ah
après,
oui, d'accord. Hein. C'est pas l'enregistrement brut qui sort du micro.
Ah
du
bah d'accord. Non, elle le travaille ensuite, mais quand même.
Ah ouais.
Quand même.
Bon.
Tout à coup, tu dis ah bah non, j'en veux plus. Je le jette à la poubelle, ce Mac pourri. Bon,
ah ben ça me rappelle, il y a bien longtemps, il y avait une campagne pour je ne sais plus quel parfum d'un grand parfumeur français, et c'était, tu vois, Sophie Marceau au petit matin qui remontait les Champs-Élysées à pied au milieu d'ailleurs de l'avenue, ce qui n'est pas une très bonne idée en termes de sécurité, peu importe. Et en fait, ils avaient embauché un grand photographe de mode de l'époque, Patrick Le Marchelier, et lui, il était arrivé à 4h du matin avec un Polaroid. Et il avait fait 5 polas, et le reste, c'était de la retouche. Voilà. Donc, c'est pas l'appareil, c'est celui qui le tient.
C'est celui qui le tient, ou celui qui retravaille le truc après, parfois.
Oui, c'est la post-prod qui compte, c'est ça.
C'est comme dans le rendez-vous tech, l'important c'est la post-prod. Donc on va arranger tout cet épisode, on va le rendre vraiment incroyable et passionnant parce que évidemment Cédric a été passionnant, Patrick un petit peu moins, mais ne vous inquiétez pas les gens du Twitch, vous pouvez aller réécouter l'épisode en podcast, il sera bien meilleur. Donc tout va bien, je vous rassure. Merci à Cédric d'avoir été avec moi. Fanny qui s'occupe du montage qui dit ah bon, faut que je fasse des trucs.
Ah bon?
Oui, comme d'habitude, ouais. tu fais en sorte que je sois intéressant. Voilà, c'est ça. Cédric, où est-ce qu'on
c'est
peut
juste, juste de l'autre côté de mon bureau, là, parce que je suis à la Plaine Saint-Denis, donc t'as tous les studios de télé autour. Il y a le studio où ils faisaient à l'époque les grandes soirées de Thierry Ardisson. Et j'avais vu une fois la photo quand même d'un truc qui était scotché au-dessus du poste de montage et où il était dit Thierry ne fait jamais de scories. Les scories, c'est les etc. Donc le job du compteur, c'est de retirer tous les Donc voilà, Fanny, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Elle aura du boulot.
Jamais de scories.
Elle aura
avec
du
moi
boulot
aussi,
franchement.
Avec mais moi également.
Tu sais que au début de ma carrière de podcasteur, quand je faisais Azeroth.fr, je passais une bonne partie du montage à retirer tous les E. Si vous allez réécouter les premiers épisodes d'Azeroth.fr, il y a pas de E. On dirait que je lis un prompteur, c'est magique.
Mmh. Et en fait, faut les couper, mais faut les garder à part pour les mettre bout à bout.
Tu les mets dans un sac et tu les mets à la fin de l'épisode.
Non, et tu les vends comme un NFT.
Eh mais tu sais quoi? J'ai les montages des épisodes d'Azeroth.fr, les premiers. Il faudrait que je les retrouve et que je vende en NFT les E des premiers épisodes. Mmh. Accessoirement, les montages prenaient une semaine pour faire toutes ces choses-là. Forcément, c'est pas la même technique. Merci Cédric. Où te retrouves-tu sur Internet?
À Cédric sur Twitter et puis Les Doigts dans la Prise, mon podcast sur la voiture électrique et autonome que je vous invite à écouter. Le dernier épisode est très rigolo.
Merveilleux, merci beaucoup. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous me retrouvez sur notepatrick.com où vous avez tous les liens. En fait, c'est à ça que ça sert, notepatrick.com. C'est tous les liens vers tout ce que je fais. C'est très facile à retenir, notepatrick.com. Vous pouvez retrouver le lien vers le Discord où on a une communauté formidable qui parle de tech et de gaming et de plein d'autres choses sur notepatrick.com. Vous pouvez aussi retrouver le lien vers Twitch. Bon, c'est facile, c'est notepatrick sur Twitch aussi. Et vers le replay sur YouTube, les replays vidéo, si vous voulez regarder nos beaux visages, enfin mon beau visage, parce que Cédric est uniquement en avatar, sa belle photo, vous pouvez retrouver ça, le lien sur notepatrick.com aussi, c'est notepatrick podcasts sur YouTube, donc ça c'est facile aussi à retenir, mais dans tous les cas, tous les liens sont sur notepatrick.com. Et le plus important, c'est évidemment patreon.com/rdvtech, qui est lui aussi dans les notes de l'émission, pour soutenir l'émission. Vous savez que si vous l'appréciez, si vous avez répondu à cette question, vous préférez avoir un café ou écouter le rendez-vous tech? Si vous avez votre café, pas de rendez-vous tech. Si vous écoutez le rendez-vous tech, il y a un café qui saute. Si votre réponse, c'est « je préfère le rendez-vous tech », peut-être que vous êtes prêt à soutenir l'émission pour 1 euro ou 2 euros ou 3 euros, ce que c'est, sur patreon.com/rdvtech. Posez-vous la question, c'est le nouveau Kling Patrick. Kling Patrick, c'est les clés qui arrivent dans le bol et on se dit « ah merde, faut que je pense à Patrick ». Et bien là, c'est « il faut que je me pose la question, Patrick ou un café ?» C'est le nouveau hashtag à utiliser partout sur vos réseaux sociaux, Patrick ou un café. Si la réponse c'est un café, je serais un petit peu déçu quand même. Je vous fais des grosses bises à tous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Ciao, ciao!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.